Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Encore beaucoup de sorties en ce moment dans les salles de cinéma. Nous avons choisi chacun un film. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors toi, Guillaume, tu t'abonnes aux films brésiliens?
C'est ça, je vais vous parler de Medusa, d'Anita Rocha da Silveira.
Et puis toi, Manu, c'est un documentaire.
Documentaire sur la folie, hein, c'est Funambule.
Quant à Marine, elle nous parlera de Entre les vagues, de Anaïs Volpé. Et puis moi, je vous parlerai de L'histoire de ma femme, film en compétition à Cannes lors de la précédente édition. C'est un film avec Léa Seydoux et ça nous donnera l'occasion de jouer à un blind test où il faudra deviner cinq titres de films dans lesquels joue Léa Seydoux. Mais nous commençons avec le portrait de trois personnages dont le délire prend des formes singulières. C'est Funambule de Ilan Klipper.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Alors, mon identité, je m'appelle Aude. J'aime les pierres précieuses, la gymnastique, la décoration, la mode, les accessoires de cadeaux, les plantes. Les vêtements, c'est les matières élastiques et les gars, c'est les punks. Ouais.
Comment filmer la folie? Alors, une question assez vaste et complexe. Hein. Ilan Klipper, hein, qui avait déjà touché le sujet du doigt hein, sous l'angle de la fiction, avec son très beau Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, bah, l'aborde dans Funambule d'une manière très personnelle, hein, en isolant chaque patient en institut fermé ou dans son lieu de vie, bah, le montrant en décalage avec le monde extérieur. Alors, non pas qu'Ilan Klipper soutienne la thèse que ces individus en marge de la société ne peuvent exister que dans leur monde sans avoir besoin d'être entourés, mais plutôt que l'idée de la folie n'a pas un seul visage. Cette approche, elle permet aussi aux cinéastes de se dégager du cinéma institutionnel. En sortant des murs vers ce qu'on appelle le milieu ordinaire, hein, il est plus aisé d'injecter de la fiction à l'intérieur d'un dispositif qui peut se révéler rapidement rigide, d'infuser aussi une esthétique formelle différente en fonction de chaque profil. De son propre aveu, hein, si l'on se réfère au dossier de presse, hein, Klipper prétend s'être inspiré de Gumeau, d'Harmonie Korine, hein, érigeant un mélange déroutant, c'est ce qu'il dit, de scènes prises sur le vif et de scènes composées. Alors, jamais observé à la marge, hein, les patients de Funambule créent au contraire une promiscuité avec le spectateur, rendant parfois poreuse la limite entre la normalité et l'anormalité. Cet éclatement géographique permet aussi de tisser une pluralité de portraits à travers des choix de mise en scène très inspirés.
Ça alors, je suis dans un hôpital psychiatrique.
Essayez peut-être d'appeler le SAMU, d'accord, pour qu'ils puissent vous envoyer quelqu'un. Ils vous enverront une ambulance privée, ils ont l'habitude de faire
non,
genre.
Non, je les aime pas.
Danser, danser, danser.
Évidemment, sans surprise, le personnage le plus captivant est aussi celui qui apparaît le plus à l'écran. Il s'agit de Aube, jeune femme de 30 ans qui vit recluse chez ses parents. Sa première apparition à l'écran est démentielle, hein, se lançant dans un monologue à la fois construit et décalé, listant tout ce qu'elle aime, hein, les pierres précieuses, la gymnastique, les accessoires de cadeaux, la décoration, la mode, l'actrice de Star Wars et les gars, c'est les punks parce qu'ils sont jolis, hein, c'est ce qu'elle dit. C'est aussi une artiste qui peint, elle fait des perles, elle est monomaniaque, se perd dans une irréalité vertigineuse transcendée par une réalisation qui nous embarque de l'autre côté du miroir avec ses lumières bleues et rouges, ses cadrages sophistiqués dans des décors qui en deviennent singuliers. Alors Klipper se réfère au conte, hein, ou pourrait même penser pour être l'héroïne en fait, d'un film de Tim Burton, mais les plus cinéphiles ne manqueront pas de penser à des gens comme Mario Bava ou Dario Argento, à cette inquiétante étrangeté qui se propage lentement à travers son discours. Protagoniste fascinant fascinant à regarder et à écouter. Aube n'est jamais filmée comme une malade, mais comme une personnalité qui ne cesse de créer de la fiction. Évidemment, elle n'est pas l'unique attrait de ce documentaire, hein, les autres patients étant tout aussi passionnants. Mais souvent filmés beaucoup plus rapidement aussi. Hein. À commencer par Johan, un jeune homme qui déborde de vitalité, d'optimisme. Il apparaît d'ailleurs à l'écran en train d'entonner un slam pendant que la caméra très mobile le suit. Ou encore Marcus, vieil anard atteint d'une misanthropie délirante qui peste contre tout, ressemble en fait à un comédien cabotin inconscient de sa propre démesure. Alors dans ces petits épisodes où il monopolise l'espace, le cadre est fixe, nimbé d'une une lumière crue, naturelle. Le spectacle d'un personnage atypique, hein, jamais regardé de haut, se suffit à lui-même, instaurant même une forme de familiarité troublante.
Tu n'existes plus. Tu pourrais crever ici que personne ne se rendrait compte.
Pas sortir toute seule comme ça. C'est dangereux dehors, tu sais bien. Il faut la protéger. Tu vois bien, même pour nous, c'est déjà difficile. Mais alors pour elle, imagine.
Ilan Clipper étonne, hein, en fait, surtout par sa capacité à s'adapter au profil de chaque acteur, partant du principe que la mise en scène se doit d'être au service du récit et non le contraire. Alors, ce n'est donc pas un film sur la psychiatrie, mais sur des patients, en fait, qui deviennent les acteurs de leur propre univers, qui nous invitent à partager. Alors, par ailleurs, hein, n'étant pas de simples sujets d'études dans le champ des sciences humaines, ils ont été rémunérés comme n'importe quel professionnel, hein, devant une caméra. Détail qui exprime en creux la conception très réfléchie de ce remarquable docu-fiction, à la fois ample et modeste, généreux et rigoureux. Et puis pour info, Ilan Clipper sort très bientôt, enfin c'est prévu prochainement, son nouveau long métrage, cette fois-ci à nouveau de fiction.
Funambule de Ilan Clipper est en salle depuis le 16 mars. Il était question de Dario Argento et on n'en est peut-être pas loin avec le film dont on va parler maintenant, teen movie pop et féministe décalé, c'est Médusa. Et c'est toi qui nous en cause, Guillaume.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Le Brésil a décidément beaucoup de choses à dire, hein, sur son gouvernement actuel. Après une jeunesse skateuse et rebelle qui se cherche dans le dispensable Je m'appelle Bagdad, après les liens mère-fille sous fond de souvenirs de dictature dans l'excellent À nos enfants, voici Médusa d'Anita Rocha da Silveira. Dans une vision à lorgnant vers la fantasmagorie, la dystopie, la réalisatrice met en scène un retour sévère de l'ordre moral, piloté par une mouvance qui se félicite du retour de la religion dans la gestion du pays. Vieux et surtout jeunes s'organisent autour de certains combats promulguant un strict respect de la bienséance chrétienne et punissent tous ceux qui s'écartent de ce qu'ils désignent comme étant le droit chemin. Nous suivons les pérégrinations de Mariana, une jeune fille qui fait partie d'une bande de filles totalement dédiées à Jésus et à la vision qu'elles se font de ce qui est acceptable. Ces filles se font appeler les précieuses. Elle s'inspire de l'acte d'une anonyme qui, vêtue d'un masque blanc, a brûlé le visage de Melissa Garcia, une jeune et belle actrice jugée dévergondée. Tandis que Melissa Garcia, surnommée Melissa Messaline, a disparu suite à son horrible attaque qui l'a défigurée, les précieuses continuent l'œuvre de celle qu'elles appellent l'ange et patrouillent la nuit en portant le même masque pour punir les filles qui sortent seules tard et seraient du coup de petite nature. Mais Mariana commence à avoir des pensées contradictoires. À la suite d'une battue où elle est elle-même blessée au visage par celle qu'elle essaye de molester, elle se rend compte que ce monde bâti sur la beauté, l'apparence et la foi est en fait terriblement factice. Les anneaux de pureté qu'elle porte, un peu comme les sinistres popstars, les Jonas Brothers en leur temps, ne protègent ni des retournements de situation au sein même du groupe, ni des brimades des employeurs soucieux de leur image, ni de l'ascendant dangereux qu'a une troupe de garçons, en tout point leurs égaux, sauf qu'ils sont des hommes. Eux aussi organisés en groupe, ils prônent la virilité et sous leur nom dévoyé de veilleurs, ils imposent un certain ordre moral grâce à la violence et choisissent leur future femme dans le groupe des précieuses. Mariana comprend qu'elle doit fuir ce genre d'organisation au fur et à mesure qu'elle tente de retrouver la trace de Melissa Garcia, d'abord pour ses copines qui veulent l'achever, puis ensuite pour elle pour voir l'horrible visage de la réalité et de la répression. On le voit, Médusa a un programme riche et particulièrement intéressant. Si la réalisatrice revendique l'influence de Dario Argento sur sa mise en scène, et il y a effectivement régulièrement un travail fait sur l'ambiance grâce au son et aux couleurs, on pense instinctivement plus à une satire de la société telle que John Carpenter l'avait fait dans l'exceptionnel Los Angeles 2013, qui d'ailleurs vient tout juste de ressortir dans une très belle copie Blu-ray 4K chez nous. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Dans ce film, Carpenter plongeait son anti-héros Snake Plissken dans une Los Angeles repliée sur elle-même qui démultipliait l'image bouffonne et caricaturale que ses valeurs portaient en étendard. Les accros à la chirurgie esthétique hantaient Beverly Hills pour se repaître de chair fraîche pour les besoins de leurs nouveaux implants indispensables à leur survie. Mais il y a le même renvoi dans Médusa, Mariana travaillant au début dans une clinique s'occupant des apparences les plus déformées de ses clients au nom du bien. Et le film tourne de toute façon autour de cette idée de chair non conforme à la pureté prétendue des aspirations du ciel et de rébellion contre un système répressif et fasciste. Il y avait Eddie, l'ami des stars dans Los Angeles 2013, joué par Steve Buscemi et qui proposait un tour complet des attractions touristiques de la ville, quand bien même cette ville était devenue une prison sanglante. On a la même chose dans Médusa, avec la mise en scène d'absurdités réjouissantes comme les 10 manières de faire un selfie parfait et chrétien, soit une mise à jour de ces influenceurs de l'enfer. Le problème vient du fait qu'Anita Rocha da Silveira n'est pas John Carpenter. Alors s'il n'y a pas à en douter de son implication, elle donne même son nom de famille à l'héroïne qui ouvre les yeux, le film est néanmoins très déséquilibré à l'image d'une bande-son électronique qui ne colle pas vraiment au long plan, qui tente de les dynamiser mais qui ne fait que souligner leur étirement inutile. Le vide de la quête vengeresse contamine la forme de l'ensemble et finit par ennuyer. Le film se tire aussi une balle dans le pied en opposant vers la fin les femmes qui se libèrent aux hommes, qui restent bigots et réactionnaires. La volonté de transformer la lutte contre la religion intégriste, une lutte générale et donc globale sur le problème, en lutte contre le patriarcat, excuse du coup ces personnages féminins détestables qui ont pourtant soumis, humilié, torturé et mutilé des femmes. C'est donc dommage que les qualités évidentes se diluent dans cette structure assez approximative. À noter toutefois qu'au générique, on peut voir une Isadora Huppert qui sonne à nos oreilles comme un amusant mélange de Musidora et d'Isabelle Huppert. Bon, alors voilà, rien que pour ça.
Alors, Cinérama n'a toujours pas de caméra dans son studio, mais Manu, tu as un peu hoché la tête, un petit avis sur ce Médusa.
Mais Manu hoche toujours la tête.
J'hoche souvent la tête. Non, c'était juste là une aparté sur la musique que moi je trouve au contraire absolument remarquable. Pourtant, je suis plutôt critique, j'aime pas généralement les musiques dans les films, mais là, c'est une musique électronique et je trouve qu'elle colle vraiment aux images.
Médusa de Anita Rocha da Silveira est en salle depuis le 16 mars.
This is Cinerama.
Décide d'épouser la première femme qui franchit le pas de la brasserie dans laquelle il boit un verre et donc ce sera pour le meilleur et pour le pire. C'est l'histoire de ma femme qui va nous donner l'occasion de jouer un blind test pour reconnaître des films avec Léa Seydoux.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Decided to get married. I could marry the first woman who comes in through that door.
quelle raison a-t-on d'entrer dans une salle pour y voir un film ? Pour l'histoire de ma femme de Ildiko Enyedi, il n'y avait aucune évidence car le film dure près de 3 heures et quand on est à Cannes, eh bien, passer autant de temps dans une salle signifie qu'on n'ira pas dans une autre. Mais plusieurs choses pouvaient intriguer. Alors tout d'abord le synopsis, hein, c'est l'histoire donc d'un capitaine au long cours qui... un jour, fait un pari avec un ami dans un café, eh bien, il épousera la première femme qui en franchit le seuil. C'est alors qu'entre Lizzie, voilà qui est intriguant et ce qui peut susciter davantage d'envie encore, hein, c'est que cette Lizzie est interprétée par Léa Seydoux. Alors un pari n'est pas toujours réussi, mais celui-ci le sera. La jeune femme va succomber au charme du capitaine pour le meilleur et pour le pire. Il s'agit de l'adaptation d'un roman hongrois écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce roman, eh bien, est comme une longue divagation sous la forme d'un monologue intérieur, d'un courant d'auto-analyse de réflexion, et la réalisatrice a pris le parti de le scinder en 7 chapitres. Alors, plus que l'histoire d'un couple, même si on en voit les joies et les tourments, c'est surtout un homme qui cherche à comprendre sa femme et au-delà de ça, à se comprendre lui-même, comprendre son existence et ce qu'il peut y faire dans le temps très bref de celle-ci, hanté qu'il est par la crainte de la solitude et de la mort. Alors une fois dit cela, eh bien on est étonné hein, du titre que prend le film, puisque de la femme en question, on ne saura pas grand-chose de plus que ce que le capitaine nous en donne. Lizzie, Léa Seydoux, garde tout du long eh bien, une part de mystère, tout en montrant un amour de la vie et une envie de liberté que les règles matrimoniales pourraient ne jamais contrarier. L'histoire de ma femme est traversée par un flot romanesque, le découpage en chapitres n'en donne que plus de valeur et de rythme. Le capitaine aime sa femme alors infiniment, il peut se montrer jaloux, adultère, quand on le conseille d'éprouver son désir, et bien quant à elle, elle semble parfois soumise, parfois libre, parfois s'échapper. Alors tout en sensualité, Léa Seydoux incarne admirablement cette épouse examinée par un mari qui aurait au fait et bien, d'imposer sa loi, comme pouvaient s'imposer les hommes à cette époque, où le patriarcat avait un tout autre poids. Alors on n'oublie pas le bellâtre Louis Garrel, qui viendra semer davantage de troubles et former un triangle amoureux que le marin redoute.
It's useless to wait for life to accommodate you. You must accommodate life. Otherwise, it will punish you.
I'm staying with you.
If that's what you think.
Bénéficiant d'une lumière somptueuse, de décors à l'avenant, l'histoire de ma femme eh bien, jouit d'une mise en scène méticuleuse. La durée du film peut en témoigner. La réalisatrice prend le temps d'organiser les séquences et on a devant nous eh bien, de vrais personnages et un récit qui s'organise autant avec ce qui est dit que ce qui nous est montré. L'histoire de ma femme donc, est en salle depuis le 16 mars. Donc, film avec Léa Seydoux, un des 4 films, c'était ça, hein, à Cannes, avec Léa Seydoux. Alors toi, tu avais beaucoup aimé l'interprétation de Léa Seydoux.
Pour France, oui, de Bruno Dumont, oui.
Alors moi,
assez impressionné.
Que j'avais vu aussi là-bas, mais j'avais trouvé que dans ce film particulièrement, eh bien, son talent était remarquable. C'est parti pour le blind test.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
On rappelle les règles du jeu, 5 extraits. Il faut deviner le titre de chaque film. Premier extrait.
Ça ne se fait pas de regarder ainsi.
Ça se fait pas d'avoir autant d'allure. On m'en donne un apéritif ?
Je ne sais pas trop. Cela m'attire des ennuis. Ça me fait faire des folies.
Alors il vaut mieux éviter.
Dans ce cas, je prends un vodka martini. Corsé.
Pour moi aussi.
J'aurais une question.
Je vous écoute.
Pourquoi, alors que tant de possibilités s'offrent à lui, un homme se choisit-il une vie de tueur à gages ?
C'était soit ça, soit me faire moine.
Sans plaisanter. C'est vraiment ça que vous voulez ? Vivre dans l'ombre, traquer, traquant les autres. Toujours à regarder derrière vous, et toujours seul.
Mais je ne suis pas seul.
Vous éludez la question.
Je ne crois pas avoir jamais eu le choix.
C'est trouvé.
Bon, j'avais le James Bond, mais finalement, c'est Spectre.
Oui, 007 Spectre, réalisé par Sam Mendes, sorti en 2015, avec Daniel Craig, la voix française qu'on entend ici, il est assez doux donc. 24e aventure cinématographique de James Bond, l'agent secret est opposé à une organisation qui est apparue plusieurs fois dans plusieurs épisodes de la saga. Près de 5 millions d'entrées en France, soit plus d'un million que Mourir peut attendre, sorti lui en octobre dernier. Deuxième extrait de ce blind test.
En fait, si tu veux, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Sartre, en fait, il a fait une petite révolution intellectuelle qui a eu pour mérite de libérer toute une génération. Faire qu'on peut décider soi-même de sa vie sans aucun principe supérieur. Moi, j'étais hyper Sartre dans mes années lycée.
C'est vrai?
Ouais. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs, tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement.
Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi.
Ouais. Presque. Trouvé.
Et c'est La vie d'Adèle.
Réalisé par Abdelatif Kechiche, sorti en 2013, adaptation du roman graphique Le bleu est une couleur chaude, et qui met en scène Adèle, donc une lycéenne qui tombe amoureuse d'une jeune artiste. Donc les deux vivent ensemble, grandissent, mais se séparent. Film remarquable, importé par le duo Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Alors, Palme d'Or pour Abdelatif Kechiche, ça, on s'y attendait, mais aussi pour Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos cette année-là. C'était un fait inédit dans l'histoire du Festival de Cannes qu'on doit à un caprice de Steven Spielberg. Alors, beaucoup nommé dans les Césars, mais seulement celui du meilleur jeune espoir féminin pour Adèle Exarchopoulos. Troisième extrait de ce blind test consacré donc à la filmographie de Léa Seydoux.
Commence la traduction, per favore.
Je chante au rythme de ta douce respiration. C'est le printemps, ça sera, parce que je t'aime. Une étoile tombe, mais dis-moi où nous sommes. Que t'en importe, ça sera, je t'aime. Et vole, vole, ça se sait, toujours plus haut on va. Et vole, vole avec moi. Le monde est fou parce que... Et si l'amour n'est pas là, il suffit d'une seule chanson pour faire de la confusion à l'extérieur et à l'intérieur de toi.
Donc Guillaume, tu avais trouvé, tu pensais qu'il y avait une princesse, effectivement.
Mais ce n'est pas celle de Montpensier.
Non, c'est à l'adaptation de La Princesse de Clèves, puisque c'était La Belle Personne de Christophe Honoré. Film sorti en 2008. C'était prévu pour être au départ un téléfilm, mais il a été diffusé avant même sa sortie dans les salles sur Arte. Et il a réuni 80 000 spectateurs en France. Quatrième extrait de ce blind test.
Si j'étais à Paris, je débrouillerais ces maudits au point.
Pourtant, lorsque je m'interroge sérieusement, je ne vois pas pourquoi je serais contre les Juifs. Car j'ai servi chez eux autrefois.
Les Juifs, c'est une sale race, c'est tout.
Est-elle vraiment plus sale que les autres? Au fond, je trouve que les Juifs et les catholiques, c'est tout un... Elles sont toutes aussi vicieuses. Tout cela, voyez-vous, c'est le même monde. La différence de religion n'y est pour rien.
Les Juifs, faut les massacrer. Faut les éventrer. Et laisser crever comme ça. Les tripes à l'air. C'est la seule solution.
Ça a été trouvé.
Et c'est Le journal d'une femme de chambre de Benoît Jacquot.
Oui, film de 2015 avec Vincent Lindon qu'on tentait de décrypter. Quatrième adaptation du roman d'Octave Mirbeau. Alors au début du XXe siècle, en Normandie, Célestine est une jeune femme de chambre au service de la famille Lanlaire. Elle doit repousser les avances de monsieur et, harcelée par madame sans cesse, elle fait la rencontre de Joseph, l'énigmatique jardinier de la propriété pour lequel elle éprouve une véritable fascination. 330 000 entrées en France pour ce journal d'une femme de chambre. À noter qu'elle a presque joué une princesse dans un précédent film de Benoît Jacquot, dans Les adieux à la reine. Dernier extrait du blind test consacré à la filmographie de Léa Seydoux.
Il y a peut-être un frère qui lui ressemble.
Si vous n'avez pas bien vu, c'est pas grave, hein, vous me le dites.
Je vous ai dit, on avait bu plusieurs bières. C'était la nuit, on avait peur.
Vous aviez pas mal bu.
Et si je vous disais qu'il y a des gens dans le quartier qui disent que c'est vous qui avez mis le feu à la maison?
Ça me fait bien rigoler.
Bah, je sais pas. C'est pas possible que un
peu énervé. C'est pourquoi qu'on aurait fait ça?
Je ne sais pas.
De toute façon, vous pouvez vérifier, j'avais la garde de mon gamin ce jour-là.
Ah non.
Vous pouvez demander à la DAS.
Trouvé.
Et c'était Roubaix d'Arnaud Depéchin.
Alors, Roubaix, une lumière. Hein,
Roubaix, là, oui.
Sorti en 2019 avec Roche Dizem, qu'on n'entendait pas, mais Sarah Forestier et Antoine Reinhardt, qu'on entendait. C'est tiré d'un fait divers qui est survenu en 2002. Film en compétition à Cannes qui n'a rien obtenu, mais il a obtenu quand même un César, celui du meilleur acteur pour Roche Dizem, près de 400 000 entrées en France. Ainsi s'achève ce blind test autour de la filmographie de Léa Seydoux, puisque nous parlions de L'histoire de ma femme. On termine avec un hymne à la sororité, Entre les vagues d'Anaïs Volpé.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Tu veux que je te montre si je connais le texte? On peut tout te montrer qu'on connaît le texte.
On arrête
tout. Vous êtes un menteur.
Margot et Alma sont deux jeunes comédiennes de 27 ans qui luttent pour survivre à Paris, ou plutôt aspirantes comédiennes, car les jeunes femmes n'ont encore, comme elles le disent elles-mêmes, jamais décroché de rôle et doivent cumuler des petits boulots. Elles se retrouvent sur cette scène de théâtre à s'affronter au cours d'un casting jusqu'à en venir aux mains. Sauf que Margot et Alma sont en réalité non pas rivales, mais amies. Ce sont même les meilleures amies du monde. Et cette engueulade n'était qu'une parade pour se faire remarquer par la metteuse en scène. Cette première scène donne le ton. On est devant un film fougueux, un film sur l'amitié féminine et sur la passion, qui commence sur un ton joyeux, quasi euphorique, très entraînant, puis qui va prendre une tournure beaucoup plus sombre, très émouvante. En effet, Margot est choisie pour incarner le premier rôle. Alma, elle, est retenue pour faire la doublure. La réalisatrice de Entre les vagues, Anaïs Volpé, ayant demandé expressément à ce que ne soit pas révélé le tournant principal de l'intrigue, je respecterai ce choix et ne divulgacherai rien.
On a fait un truc de fou. Elle nous a vu, elle nous a remarqué.
Ce genre de metteur en scène, c'est des oufs.
Je sais qu'elle aime ça, je le sens, tu vois.
J'ai 27 ans, j'ai dû bosser dans 12 cafés et... Ah oui, zéro film, zéro pièce de théâtre.
Mais j'ai toujours voulu être une star.
I wanna be a star.
Ah, mood star.
Il faut plus d'énergie. Je vais voir New York, je vais voir l'amour, là.
Vous faites de l'acteur studio dans le petit théâtre, les Américaines.
Moi, je bosse à la française.
Encore une !
Encore une !
On a découvert Entre les vagues l'été dernier sur la Croisette lors de la quinzaine des réalisateurs et on a été charmés, on a pas mal ri et on a beaucoup pleuré. Anaïs Volpé, jeune cinéaste de 33 ans qui, comme ses personnages féminins, a également découvert Paris dans la vingtaine et vécu de belles amitiés au cours de ses errances artistiques, déploie une grande ardeur dans ce premier film. De l'énergie, il y en a à revendre, les deux comédiennes étant même un peu en sur-régime, peut-être dirigées de façon légèrement excessive, même si l'ensemble s'avère galvanisant et tout à fait séduisant. À l'écran, le duo d'actrices irradie. D'un côté, Souheila Yacoub, suissesse venue de la danse et du théâtre, qui fait son chemin dans les films français chez Gaspard Noé et bientôt chez Clapiche. De l'autre, Déborah Lucumena, césarisée pour le film Divine et à l'affiche de Robuste également cette semaine où elle donne la réplique à Gérard Depardieu.
Qu'est-ce qui se passe?
Arrête.
C'est quoi ça? C'est quoi?
Qu'est-ce que tu me fais depuis tout à l'heure?
Règle tes comptes ici!
J'y arrive plus, voilà, c'est fini, j'arrive pas!
C'est quand je pense que tu m'as caché ça.
Alors, bah, sinon moi aussi je vais pleurer.
Bien que la complicité et le talent de ces deux-là soient évidents, on tombe parfois, c'est vrai, dans le cliché de la jeune comédienne en devenir qui est forcément extravertie, qui parle fort, qui bouscule tout le monde et porte des vêtements à paillettes car sa vie est un show permanent. Aux côtés de Souheila Yacoub et de Déborah Lucumena, l'humoriste Mathieu Longate, très convaincant, et Sveva Alviti, comédienne italienne que l'on a découverte en Dalida dans le biopic éponyme réalisé par Lisa Azuelos. Anaïs Volpé a tenu à donner à son histoire d'amitié une certaine emphase, un lyrisme assumé, mais également un grain d'image particulier en tournant avec une caméra quasiment impossible à trouver de nos jours, la Digital Bolex, qui a la particularité de créer un rendu 16 mm tout en étant numérique. Cette fameuse caméra à l'épaule, peu de lumière artificielle, une réalisation, on le sent, spontanée avec les moyens du bord, forme un ensemble de choix de réalisation tout à fait cohérent pour suivre les aventures parisiennes des deux amis. Entre les vagues est un premier film très vivant, moderne, prometteur pour la suite, qui fait également un très bel écrin pour le talent de ces deux comédiennes.
Je te lâche pas, je suis là. Regardez ce que vous êtes devenues aujourd'hui. Les femmes portent une sacrée meute d'Amazon. Hein.
Si vous voulez voir Entre les vagues d'Anaïs Volpé, eh bien c'est tout à fait possible puisque le film est en salle depuis le 16 mars.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon?
Qu'est-ce que vous racontez?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie.
Ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine encore avec des films. Pour toi, Guillaume, ce sera deux films.
très différents. Alors je fais du coup, d'un côté le franco-français, Le Temps des Secrets de Christophe Baratier, et le américano-américain Ambulance de Michael Bay.
Et toi, Manu ?
Ce sera De nos frères blessés avec Vincent Lacoste et Vicky Cripps.
À noter qu'on aura une interview, celle d'Audrey Lamy et de Louis-Julien Petit pour le film La Brigade. À la semaine prochaine.